Cap Cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, Cap Cap thématique, Pierre-Paul Riquet et le canal du Midi. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. En 1609, naissait à Béziers un homme qui allait laisser une œuvre gigantesque, une œuvre de visionnaire et même de génie, le canal des deux mers, devenu canal du Midi sous la Révolution. Cet homme, qu'a priori rien ne prédestinait à entreprendre une telle aventure, était entré dans l'administration de la gabelle royale, et donc chargé de lever l'impôt sur le sel, et allait évoluer dans l'administration royale jusqu'à devenir fermier général pour le Languedoc et le Roussillon, ce qui lui a permis d'acquérir une substantielle fortune. Après avoir résidé dans différents lieux de notre région, il allait se fixer au château de Bonrepos. C'est de là qu'il allait concevoir un projet que l'on peut qualifier pour l'époque de pharaonique, joindre l'Atlantique à la Méditerranée par un canal facilitant les échanges, le commerce et le transport des denrées alimentaires, dont bien sûr le blé et le sel. Ce fut le plus grand chantier du siècle, un chantier qui se déroula sur 15 ans, qui employa une main-d'œuvre considérable, jugez-en, jusqu'à 12 000 hommes et femmes, et pour lequel Riquet bénéficia de l'indispensable appui du jeune roi Louis XIV, et surtout de son puissant ministre Colbert. Bien évidemment, ce ne fut pas, si je puis dire, un long canal tranquille. Riquet se heurta, comme à l'occasion de toute entreprise d'envergure, à de nombreuses difficultés de nature bien sûr sociale, politique, financière, technique. Et puis, s'il avait été de nos jours, certainement, il aurait eu quelques grèves en plus. Son remarquable travail a été salué, admiré par beaucoup, n'en retenons qu'un pour l'exemple, Vauban, qui a écrit, je le cite, « Je préférerais la gloire d'être l'honneur du canal des deux mers à tout ce que j'ai fait ou pourrais faire à l'avenir. Un bel hommage d'un fin connaisseur. » Riquet mourut à Toulouse en 1680, alors qu'il ne restait plus, je crois, que 4 km à creuser. Il laissait à ses associés, surtout à sa famille, une fantastique dette. Et en 1996, le canal a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour évoquer cette question, je suis en compagnie de spécialistes, à savoir Mireille Aublin-Brière, auteure d'ouvrages primés par l'Académie française, alors j'en cite quelques-uns, Riquet, le génie des eaux, où est donc passé le canal du Midi, histoire inédite du canal du Midi, chargée de communication et des archives historiques au VNF, dont elle a été secrétaire, je crois, générale adjointe, c'est cela ?
C'est cela.
Et Geoffroy Besse, chargé de mission au château de Bonrepos, autrement dit, faisant office de conservateur, le château de Bonrepos étant, comme je le rappelais tout de suite, une des demeures de Riquet. Eh bien, merci, madame, monsieur, d'être venu au studio d'Esprit Occitanie donc, pour nous parler de notre grand ancien. Alors, moi, je vis et je travaille sur le, pas sûr, mais devant le canal du Midi, donc je pense à lui très souvent. Quel homme était-il, Mireille Aublin-Brière ? Il fallait pour se lancer dans cette aventure, parce que rappelons, je crois qu'il a s'est commencé à imaginer et à lancer cette affaire à 52 ans par là. Ce qui était quand même pour l'époque, déjà aujourd'hui à 52 ans, on est dans la force de l'âge, mais à l'époque.
Un grand âge.
Voilà, c'était un grand âge. Voilà.
Alors je commencerai par dire bonjour à vos éditeurs. Et vous avez fait un excellent résumé de la vie de Riquet, déjà. C'est vrai qu'il a il était dans la gabelle, collecteur des impôts. Et il faut savoir que toute sa vie, en dehors même du canal, de ce dont on va parler, il a collecté les impôts, l'impôt sur le sel. C'est à partir de 54 ans, 55 ans, qu'il s'est intéressé au canal du Midi, enfin au canal Atlantique Méditerranée, et c'est une époque où Colbert souhaitait donner un prestige, comme Louis XIV bien sûr, à la France, et remettre en valeur les voies navigables. Donc Riquet a songé à tout cela.
Alors quand vous dites qu'il a eu cette idée, enfin il ne l'a pas eu en se rasant, comme l'on dit maintenant, comment ça lui est venu ? C'est quand même une idée extraordinaire que de vouloir relier deux mers.
Oui, alors.
Mais il y a eu des précédents.
Déjà, il y avait eu des précédents. Déjà depuis Charlemagne, voilà. Henri IV et bien d'autres.
Et Bernard Arribat.
Voilà, tout à fait. Avaient envisagé cette liaison Atlantique-Méditerranée. Mais le problème, c'était comment alimenter ce canal en eau. C'était ça le gros problème. Et le génie de Riquet a été, justement, en allant dans la montagne noire, ne serait-ce que pour collecter les impôts, il s'est dit là est la source. Et donc la réponse à ce problème. Et il a réuni toutes les rivières, les petites rivières et les ruisseaux de la montagne noire pour en faire la rigole de la montagne et la rigole de la plaine avec le partage des eaux à Naurouz, même si avant on pensait que ce serait le Grésens qui... là où aurait lieu le partage des eaux. Finalement, ça a été Naurouz. Donc, à Naurouz, les eaux vont vers l'Atlantique et vers la Méditerranée.
On viendra sur cette question très technique, finalement. Ce chemin d'eau, comme on l'appelait à l'époque, un chemin d'eau de 240 km. Il fallait avoir une sacrée imagination pour se lancer. D'abord, se lancer dans cette aventure, mais surtout, ne serait-ce que l'imaginer. Alors, oui. Quel homme était-il pour arriver à concevoir un pareil projet ?
Alors déjà, bon, il faut savoir quand même, on pense qu'il a étudié, qu'il a pris des études dans certaines archives, et notamment, il cheminait avec son ami de l'époque, de Scorbiac, qui avait lui-même fait une étude sur la mise en navigabilité de l'Agout, et puis éventuellement ce futur canal. Mais Riquet, lui, était inventif, imaginatif, fonceur. Et je crois qu'il a eu toutes les opportunités. À partir du moment où il s'est dit « c'est faisable, c'est possible », là où il a eu peut-être de la chance, c'est qu'il a rencontré à Castres le Mgr Charles d'Anglure de Bourlemont, qui était un ami de Colbert et qui lui a permis, en venant visiter Riquet dans son domaine de Bon Repos, il a été... très intéressé par le projet de Riquet, et il lui a dit « écrivez au ministre de ma part ». Voilà. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et en plus, peut-être que Geoffroy pourra vous dire, Geoffroy Besse, qu'il a fait des tests sur ce domaine de Bon Repos.
Oui, on y vient tout à l'heure. Alors, en dehors de ça, donc, il a eu une idée, parce que c'était une idée commerciale. Hein. Ce n'était pas uniquement pour la beauté des paysages du sud-ouest de la France. C'était l'idée d'exploiter à son profit... ce canal.
Oui, alors déjà, c'était quand même pour éviter le détroit de Gibraltar où les navires du roi se faisaient attaquer par les pirates. Donc, ça permettait d'éviter cela. Ça permettait également de recevoir des taxes et de redevances en faisant passer les bateaux dans ce futur canal. Et puis, Riquet, lui, pensait en assurer la gestion. D'ailleurs, il y a réussi. Et c'était un bon projet pour ses propres finances.
Oui, enfin, avant d'arriver à ces finances qui ont été quand même un peu mises à mal, hein, même beaucoup, avant d'arriver à l'exploitation et d'engranger des sous, parce que le canal a rapporté de l'argent, il a couvert ses dettes, on verra ça, et il y avait quand même beaucoup de travail. Mais il fallait avoir la vision, c'est une chose, mais après il faut réaliser, c'est-à-dire qu'il allait falloir convaincre les gens du pays, ce qui n'était certainement pas simple, certainement les États du Languedoc aussi, convaincre peut-être, et surtout le roi et Colbert, qu'il y avait là une possibilité technique, et il y avait là aussi une possibilité de gagner de l'argent.
Le premier qui a été convaincu, et pour moi, c'est très important parce que je pense que l'influence de l'Église est importante dans cette histoire. S'il n'y avait pas eu Charles d'Anglure de Bourlemont, qui fut l'évêque, l'archevêque de Toulouse, et qui a été très intéressé par le projet, sachant que ça pouvait intéresser Colbert, je pense que Riquet n'aurait pas pu aller seul, en tant que collecteur de la gabelle, se présenter à la cour. Ce n'était pas possible. Donc c'est ce prélat qui lui a permis de se rendre à la cour et de présenter, alors déjà d'écrire une lettre en 1662 à Colbert de la part du prélat, et ensuite de se présenter avec lui à la cour pour développer son projet, les plans, etc. Voilà.
Comment il était, ce Riquet ? On le dit volubile, bon vivant, c'était cela ? Quelle était sa personnalité ?
Alors absolument, très bon vivant, il aimait, il l'écrit d'ailleurs, hein. Il aimait bien manger, il aimait bien boire, il avait des amis, il était fidèle en amitié, fidèle avec ses collaborateurs, il faisait intervenir des membres de sa famille, mais aussi beaucoup d'amis et d'entrepreneurs qui tournaient autour de Revel et des environs. Et il avait une largesse d'esprit parce que c'était des protestants. Il y avait eu quand même l'histoire de la guerre des protestants et des catholiques. Et il y a beaucoup son principal chef d'entreprise, Roux, était un protestant et d'autres ouvriers du canal étaient des protestants. Mais il était très proche des ouvriers, très proche de ses collaborateurs, dynamique, volontaire. Allant de l'avant, au-delà même de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et par exemple, l'histoire du malpas où normalement il aurait dû s'arrêter parce que c'était très compliqué pour les travaux, eh bien, il a foncé. Et même Colbert avait envoyé, c'est ce qui se dit, quoi, un cavalier pour dire stopper les travaux. Et lui, il a foncé et le tunnel du malpas était réalisé. Et tout s'est passé de cette manière. Il était... Il savait aussi que c'était un grand chef d'entreprise, mais justement, là, on pourra voir que par bon repos, je pense qu'en achetant ce domaine, il a appris à faire beaucoup de choses à bon repos. Ça a été sa première grande entreprise. Et ensuite, il a quand même été à la tête de, au début, 600 agents, 600 travailleurs à Saint-Féréol, 800, 900, après 2000, après 4000, 5000, et on est arrivé à 12 000 travailleurs. Et lui, il surveillait tout, parce que moi, j'ai étudié plus de 10 000 pièces aux archives du Canal du Midi. 10 000 pièces, ça n'est pas rien. Et j'ai vu qu'il était partout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a subjuguée. Il était à la fois sur le terrain, parce que pendant les dernières années où il a été gravement malade, pendant 6 mois, il s'est retrouvé à 7 sur le terrain, parce qu'il faut parler du canal, mais il y a le port de 7 également. Qu'il a réalisé. Donc, c'est phénoménal, tout en s'occupant de ses enfants, etc.
On viendra.
Excusez-moi, je suis un peu... J'ai la voix enrouée, je suis désolée.
Nous vous entendons très bien. Alors, on va laisser se reposer 2 secondes cette voix. Le château de Bon Repos, Geoffroy Besse, donc vous êtes le gardien, si je puis dire, au sens large du terme. Vous pouvez nous dire, d'abord, où il se situe Bon Repos ? Parce que les Toulousains ont toujours entendu parler de Bon Repos, mais tout à l'heure, on discutait hors micro dans le studio... avec les gens qui étaient là, de savoir exactement où il se situait.
Tout d'abord, bonsoir. Donc, le château de Bon Repos, okay, finalement, il est tout près de Toulouse. On est à peu près une 20aine de kilomètres au nord-est. Nous nous trouvons entre les voies qui mènent à Toulouse-Albi et Toulouse-Lavaur. On est dans ce triangle, donc on est tout proche de l'agglomération toulousaine et d'ailleurs desservie très rapidement par l'autoroute Toulouse-Albi notamment.
Mais autrefois, il n'y avait pas l'autoroute quand il y avait Riquet, donc il venait à cheval.
Tout à fait, mais cette demeure de campagne de Pierre-Paul Riquet se situe à une 20aine de kilomètres, c'est-à-dire raisonnablement proche de l'agglomération toulousaine, de la ville de Toulouse, et qui permettait à Pierre-Paul Riquet de pouvoir, sur une petite demi-journée à cheval, très rapidement pouvoir rallier ses hôtels particuliers, son hôtel particulier toulousain et sa résidence de campagne.
D'où la... 20 kilomètres à cheval, même pas une demi-journée, c'est 2 heures hein, avec un bon train. Alors pourquoi il a acheté Bon Repos ? Parce qu'avant, il avait vécu ailleurs. Hein. D'abord, il n'avait pas le logement de fonction, mais il vivait surtout, principalement, là où il administrait.
On peut supposer, puisque vous vous adressez à moi, on peut supposer qu'il a vécu au début à Béziers. On peut supposer qu'il était dans sa famille à Béziers, mais on ne connaît pas le lieu de sa naissance. C'est le problème, tout de même. Et on ne sait pas exactement où il habitait les 20 premières années de sa vie, mais on peut supposer que c'était à Béziers. Ensuite, il est allé à Mirepoix de 1634 à 1647. En 1648, il s'est installé à Revel, sur la place de Revel, et après, c'est là qu'il a acheté le château. Alors, je laisse là à nouveau la parole à Geoffroy.
Juste parenthèse avant que Geoffroy Besse la reprenne. Riquet, je l'ai dit tout à l'heure, est décédé à Toulouse. Où est-ce qu'il est enterré ?
À la cathédrale Saint-Étienne, au pied du pilier d'Orléans. Il est enterré avec son fils Jean-Mathias, sa femme, Catherine de Millot, et une belle-fille de Breuil. Une de ses belles-filles, parce qu'il n'en a eu plus. Il n'a pas connu cette belle-fille, mais enfin, ils sont 4 à Saint-Étienne.
Sa tombe a fait un peu disparu à une certaine époque, non ?
Pendant de nombreuses années, on ne savait même pas où il était. Il était oublié, Riquet. Et c'est un membre de sa famille qui, en 1840, quelque chose comme ça, s'est inquiété de savoir où était l'ancêtre. Et ils ont fait des recherches. Ils ont vu qu'il était enterré à la cathédrale Saint-Étienne, au pied du pilier d'Orléans. Il y a une inscription, d'ailleurs, et on voudrait, l'objectif, avec mon association Riquet et son canal, on voudrait mettre beaucoup plus en valeur le lieu de sa tombe, parce que c'était gravé « Seigneur de bon repos », etc., au pied de ce pilier. Mais ça a disparu un petit peu, et donc on demande même à la Direction régionale des affaires culturelles de remettre en valeur cette tombe, de graver le nom de Riquet et avec sa seigneurie.
Vous savez que nous avons des autorités préfectorales qui sont très intéressées par le canal. Et même, je crois, notre préfet de région est très, très intéressé par le canal. Donc là, vous avez un appui naturel pour que la DRAC fasse un peu son travail.
Oui, mais nous sommes pleins d'espoir et nous comptons sur la DRAC et sur Monsieur le Préfet.
Voilà. Alors, Geoffroy Besse, revenons dans ce château. Vous pouvez nous le décrire ?
Alors, le château de Bonrepos Riquet donc, est en fait la demeure familiale de Pierre-Paul Riquet. Il va s'y installer à partir de 1651-1652. Cet achat du domaine de Bonrepos Riquet, puis l'édification d'un château à neuf, qui sera donc sa demeure de campagne, s'inscrit dans un moment important pour Pierre-Paul Riquet, qui est celle de son ancrage foncier et donc de son ancrage dans une volonté d'insertion sociale. Il faut bien comprendre que l'acquisition d'un fief noble par Pierre-Paul Riquet, qui est fermier des Gabelles, enfin, qui est sous-fermier au moment de l'acquisition, qui est bourgeois, donc véritablement cette acquisition s'inscrit dans une volonté d'insertion sociale. Et à ce titre-là, il ne faut pas perdre de vue que le projet de canal du Midi s'inscrit dans une dynamique d'ensemble identique et dans le prolongement de ce projet-là. Concernant le domaine actuellement, donc, il faut savoir qu'il a été occupé par sa famille, par ses descendants jusqu'au début du XIXe siècle. Donc Jean Mathias, notamment, y a vécu. Jean-Gabriel Amable, son petit-fils également. Et cela jusqu'à la Révolution française et un petit peu au-delà. Donc ce domaine de Bonrepos Riquet, aujourd'hui... On peut y voir le château édifié par Pierre-Paul Riquet avec un certain nombre de modifications d'aménagement ultérieur. On peut aussi y découvrir un bâtiment remarquable qui est une vaste orangerie, qui est celle aménagée par son petit-fils, qui est tout à fait remarquable, exceptionnelle, et qui justement témoigne de l'ascension sociale qu'a connue la famille grâce au canal et à son exploitation. Et à ce titre-là, le château est aussi un miroir déformant de l'exploitation du canal, en plus d'avoir été, comme l'évoquait tout à l'heure Mireille, un lieu d'expérimentation dans son parc. Donc venir à Bonrepos, c'est un petit peu toucher Pierre-Paul Riquet par une entrée originale, à la fois la personnalité du personnage qu'on peut percevoir dans ses ambitions, dans sa vie quotidienne, dans son projet du canal, mais aussi comment il a pu permettre à sa famille de finalement créer une forme de dynastie Riquet qui s'étend aujourd'hui bien au-delà des frontières de notre région toulousaine et qui d'ailleurs concerne la grande aristocratie, en tout cas une certaine grande aristocratie européenne, qui témoigne de cette réussite.
Alors on parle de château, bon, c'est pas un château au sens moyenâgeux du terme, c'est une très grande demeure, c'est ça ?
En fait, c'est un château comme on les édifiait au XVIIe siècle. Aujourd'hui, il ne subsiste que le corps de logis, c'est-à-dire un château de plan massé rectangulaire, mais il bénéficiait d'une avant-cour et de fossés des communs qui constituaient une enceinte, un petit peu d'ailleurs à l'image du château de la Réole que beaucoup certainement de vos auditeurs connaissent. Donc, château de la Réole en Haute-Garonne, je précise, ne pas confondre avec le château de la Réole en Aquitaine, et qui est donc un exemple des constructions traditionnelles méridionales à cette époque.
Donc j'imagine que dans ce château, on disait que c'était un reflet finalement de sa position sociale. Il devait beaucoup recevoir, il avait une table bien garnie, il mangeait bien à l'époque.
Oui, Pierre-Paul Riquet, lors de l'édification du château, a cherché à s'adjoindre les services d'artistes, d'artisans, de renommée. comme Fayet, par exemple, le peintre Fayet, comme Antonio Verrio de Lecce, qui est un peintre italien, qui a beaucoup œuvré à Toulouse, d'ailleurs qui était sous la protection de Pierre-Paul Riquet. Nous avons encore un certain nombre de ses fresques murales conservées au château, et qui ensuite fera une carrière remarquable auprès de la cour du roi d'Angleterre. Donc on a affaire à des artistes renommés, et ça participe effectivement au décorum et à la volonté de Pierre-Paul Riquet d'asseoir sa position, qu'il va pouvoir justement concrétiser d'une certaine manière grâce au lancement de ce projet de canal, qui sera l'élément clé pour lui, puisque suite à l'édit de Saint-Germain-en-Laye, donc l'édit qui sanctionnera la concession du canal d'une certaine manière à Pierre-Paul Riquet, quelques semaines après, par lettre patente, il sera réhabilité en noblesse. Donc véritablement, c'est un projet, une stratégie globale, et le château participe un petit peu à tout ça. Donc oui, un château on reçoit, et ses enfants et petits-enfants perdureront cette initiative, et on recevra d'ailleurs des gens prestigieux à Bon Repos, comme l'aumônier de Brienne, hein, l'archevêque, et surtout Adam Smith, donc grand économiste écossais, qui viendra aussi séjourner au château au XVIIIe siècle pour rencontrer...
Il a écrit d'ailleurs un livre qui est passé à la postérité, je crois, non ?
Oui, un petit traité d'économie.
On va dire ça comme ça.
Père de l'économie libérale, en tout cas présenté comme tel, traité sur la richesse des nations, et venu à Bon Repos pour rencontrer l'administrateur du canal, qui était autre que le petit-fils de Pierre-Paul Riquet, dans son château.
La richesse des nations, c'est quand même pas rien comme livre au niveau de l'économie. On ne sait pas assez qu'il a été écrit à Bon Repos. Est-ce qu'à Bon Repos, vous avez conservé quelque chose de...
Non. Il n'a pas été écrit à Bon Repos. Simplement, Adam Smith a été intéressé de traiter la question du développement économique à travers l'exemplarité que constituait le canal du Midi à cette époque. Et donc, rencontrer l'administrateur du canal chez lui était une chose courante, et la demeure de l'administrateur du canal était le château de Bon Repos Riquet à l'époque.
Alors vous n'y étiez pas à l'époque, mais non. Ils ont parlé dans quelle langue à votre avis ?
Probablement français.
Oui, on parlait un peu plus de français.
Français était la diplomatique.
Même aux USA, beaucoup plus que maintenant. On fait une première pause musicale, hein ? On va oui. Retenir la pause oui. En premier, hein, c'est normal, de Madame Aublin-Brière. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Bachoun, oser Joséphine.
Eh bien voilà, osons Joséphine.
Comme Riquet a osé, ça m'a inspiré.
Ah, le parallèle est osé, mais on l'écoute.
À l'arrière des berlines, on devine. Et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéra. À qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Usez le sourire. Usez, usuriez. Soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Osez, osez. Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Osez, osez Joséphine, osez le canal du Midi, le choix de Madame Aublin-Brière. Effectivement, le parallèle est presque facile. Alors, osez, mais il fallait avoir des sous. On parlait d'argent au micro, on en reparlera peut-être un peu à la fin de l'émission, on parle toujours d'argent. Il fallait quand même financer cette affaire-là. Alors moi, j'ai été un peu regardé, il semblerait que ça ait coûté plus de 17 millions de livres.
Oui, c'est exact.
Ce qui ferait aujourd'hui... En euros, j'ai essayé de faire la conversion, ça ferait 118, 120 millions d'euros, c'est ça, à peu près.
C'est, la livre, c'est 38 euros, oui, je crois,
oui,
maintenant,
je
à peu près.
Je me suis livré à une conversion un peu osée, mais c'est une somme considérable aujourd'hui, mais considérable encore plus pour l'époque.
Alors,
je sais qu'il avait une grosse fortune personnelle, puisque c'est vrai que les intendants et surtout les gens qui levaient l'impôt avaient un régime assez privilégié. Pardon, mais comment a-t-il financé tout cela? C'est pas uniquement sur sa cassette.
Alors, ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que Riquet, un petit peu comme son père, a été un grand affairiste. C'est-à-dire que toute sa vie, il a commencé par prêter des petites sommes qui sont devenues des grosses sommes, enfin, à une époque...
Il n'était pas juif, pourtant.
Non,
mais à l'époque, on disait, on place son argent, on disait toujours, j'ai trouvé un honnête juif à qui j'ai placé mes économies.
Mais déjà, à Mirepoix, il a fait cela, il s'est enrichi. Il s'est enrichi à Revel énormément. C'est tout juste s'il n'a pas eu tout Revel de cette manière, parce que les consuls de Revel...
Vous voulez dire par là qu'il était usurier?
Un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà.
Georges Frobès,
ça a été un de ses ressorts d'affaires, c'est-à-dire de, à travers ce biais-là, effectivement, de faire fructifier son argent et celle des autres, d'une certaine manière, en tout cas dans son intérêt, pour lui-même. Et c'est vrai que ça a été un des moteurs de son enrichissement. Et après, la recherche de placement d'affaires aussi. Et là, on touche aussi sur ce qui a pu être un élément important en matière d'acquisition pour des intermodales, qui sont une connaissance technique d'intérêt autour des moulins et des voies d'eau dans la montagne noire, qui ont été peut-être pour lui, puisqu'il ne faut pas oublier que les moulins, c'est des moulins de rapport, et que quand on constitue un domaine, c'est on constitue un domaine pour s'enrichir, pas pour autre chose. C'est un domaine, c'est une l'édifice, le château est un symbole de pouvoir, mais le reste du domaine est une zone d'exploitation agricole, d'activité, etc. Et notamment autour des moulins.
C'est ce que faisaient aussi les abbayes à l'époque. Hein.
Exactement.
Ils avaient un territoire et une exploitation dessus.
Exactement. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que
s'est enrichi beaucoup de cette manière. Il y avait les péages également. Il y avait les péages pour passer d'une route à l'autre, etc. Il encaissait tout ça. Il y avait les taxes, les redevances. Pour faire le pain, il avait
les fours.
Et il avait de l'argent. Enfin, pour tout, quoi.
Disons qu'aussi, à l'époque, le système bancaire était quasiment inexistant.
C'était un banquier, mais exactement comme son père.
On n'a pas parlé de ses parents. Qui étaient ses parents? D'où venaient-ils?
Ses parents, on connaît peu de choses. De sa mère, on ne sait pas. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que son père, natif de Béziers, enfin, vivait à Béziers, et il a été procureur, il a été notaire surtout, mais un notaire un peu mafieux. C'est-à-dire que...
Oh ben non, on ne dit pas notaire mafieux, on dit un notaire tout court, non?
C'est-à-dire que... Non, j'en dirais pas plus.
Ah bon,
moi.
Non,
mais
plaisante, bien sûr.
Il a quand même bidouillé des testaments pour que ce soit son
compte. Ah oui, ça c'est...
Et
effectivement.
Et puis, il a fait peut-être quelques petits détournements, mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Il a tout de même fait 3 ans de prison pour ce type d'affaires. Ça a été un petit peu un mafieux, mais un affairiste et un très bon affairiste, et ça ne l'a pas empêché d'être un grand électeur à Béziers, d'être procureur et d'être un notable de Béziers. Mais Riquet a baigné dans ces histoires d'affaires.
Donc il avait été à bonne école.
Voilà, moi je pense qu'il a été à très bonne école. Et c'est de cette manière que Riquet s'est enrichi. Il s'est enrichi également en créant un service de voiture de transport de sel. Et ça, ça lui a rapporté aussi. À partir des Salins du Sud, si vous voulez, il s'est dit il y aura le canal, mais avant le canal, il a fait un transport de voitures de sel, et ça lui a bien rapporté aussi. Et puis, il avait sa richesse personnelle.
Oui, alors, mais est-ce qu'il a investi totalement sa richesse personnelle ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, on croit qu'il a investi sa richesse personnelle. C'est vrai qu'il a beaucoup investi, mais il y avait un tiers de l'argent de Riquet, un tiers de la cassette royale et un tiers de comment ça s'appelle ?
Des états généraux du Languedoc
qui ont
contribué
au
financement.
Les états du Languedoc qui a financé par un tiers.
Parce qu'on nous dit, à la fin de sa vie, il est quasiment mort, ruiné, enfin ruiné, non, parce qu'il avait un outil, il avait monté un outil économique absolument fabuleux, qui a produit après, on le verra, de la richesse. Mais donc il n'avait pas investi toute sa fortune.
Non, j'ai envie de dire, il est mort très endetté, puisque les enfants ont mis quand même 40 ans pour récupérer,
pour se refaire,
mais pas ruiné, puisque son fils aîné, peu de temps après, a acheté le château de l'Espinasse. Il a acheté l'hôtel particulier de la rue 16 rue Vélane.
Oui.
Et donc, vous voyez, il fallait beaucoup d'argent pour ça. Il a acheté des terres, au Somail. Donc, quand on est ruiné, on ne peut pas acheter tout cela. Et donc, il est mort, endetté, mais non ruiné. Voilà.
Et alors, dans ces courriers que vous avez dû étudier, puisque vous avez regardé toutes ces pièces, je pense qu'il y a beaucoup de courriers financiers où il va réclamer de l'avance pour ses travaux, il va réclamer
que l'on paye, il va réclamer
aux états généraux de Languedoc, mais certainement au roi à travers Colbert.
Oui, oui. Alors, le grand financier aussi, c'était Pénautier. C'était le grand financier, mais Riquet se plaignit auprès de Colbert de son manque d'argent. Et puis quelquefois, enfin, ce qu'il a fait, Riquet aussi, c'était quand même un petit malin. Comme Colbert ne lui donnait pas d'argent, alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait sur la cassette de la gabelle pour financer le canal.
C'est ce qu'on appelle maintenant le prélèvement à la source.
Voilà, ça a été une histoire monumentale parce qu'il a confondu les fonds. Et à partir de là, quand Colbert s'en est aperçu, enfin vite fait, parce que Colbert vérifiait tout, il a été harcelé, et quand je dis harcelé, jusqu'à la fin de ses jours. C'est terrible, il a fait un travail colossal, un travail magnifique, mais Colbert jouait avec la carotte et le bâton, et il a été très dur vis-à-vis de Riquet, et il voulait tout contrôler. C'est là que je me dis comment cet homme, qui était sur le terrain, mais vraiment beaucoup sur le terrain, hein, pragmatique et sur le terrain, il suivait ses 12 000 travailleurs et il donnait des ordres, etc. Et comment pouvait-il à chaque fois écrire à Colbert ? Aux archives du Canal du Midi, il y a 500 lettres de Colbert à Riquet. Et ça n'est qu'une toute petite partie. Les autres, on ne sait pas.
Ce sont des lettres manuscrites ou les dictées à des secrétaires qui les recopiaient ?
Les deux. Essentiellement, il dictait à des secrétaires. Mais tout ce temps passé à dicter. Et il devait faire le décompte de tout. Ce que j'ai vu, par exemple, pour le port de Sète, même le nombre de pierres, le nombre de cailloux, enfin, les voitures, tout était contrôlé par Colbert.
Donc les statistiques ne datent pas d'aujourd'hui. Avant, on avait d'autres méthodes de travail, mais la même rigueur.
Peut-être même pire. Plus grande rigueur, me semble-t-il.
Oui,
rien n'échappait au contrôle de Colbert.
C'était la Cour des comptes de l'époque.
Oui.
Alors les pouvoirs locaux, comment ils ont vu arriver ce projet ? Il y a eu le soutien, on n'est jamais très bien chez soi, c'est toujours problématique. Est-ce que lui a eu le soutien de ses...
Ça n'a pas été simple parce que, par exemple, les cultivateurs, les paysans, n'étaient pas du tout d'accord pour qu'on traverse leurs terres avec un canal. Mais
parce qu'il a fallu, il a fallu déjà exproprier vraisemblablement.
Alors, il a fallu exproprier et il faut savoir, le canal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il fait 240 km de long, depuis Toulouse jusqu'à l'étang de Thau, mais il y a 16 mètres de large, de 16 à 19 mètres, et 2 mètres de profondeur à l'époque. Hein. La profondeur est peut-être un peu moindre maintenant parce que c'est pas trop entretenu. Mais c'est moins entretenu, tout du moins. Mais là, il fallait traverser les terres des paysans. il fallait mettre la terre creusée sur les bas-côtés. Enfin, ça a fait pas mal d'histoires. Il y a eu quelques petites révoltes. Mais finalement, les paysans ont été assez bien dédommagés et ça s'est calmé. Voilà. Bon, après, les états du Languedoc, alors là, il y avait des hurlements. Parce que quand il a été demandé aux États du Languedoc de financer une partie du canal, ils n'étaient pas d'accord. Et moi, je sais que j'ai trouvé dans les archives des documents vraiment assez drôles où les évêques, les archevêques, enfin, et tous les prélats se bagarrent entre eux, mais physiquement. Il n'y a pas que en parole, hein. Et ça, c'est dans les textes, dans les archives. Et il faut toute l'autorité du président pour calmer les esprits parce que personne ne veut payer. C'est un peu comme maintenant. Hein.
Ça veut dire qu'à l'époque, on n'a pas du tout cru que cet ouvrage pourrait apporter la prospérité du Languedoc ?
On n'y croyait pas et en même temps, on pensait qu'il ne se réaliserait pas jusqu'à la fin. Ça paraissait énorme, pas possible.
Enfin, il a fallu quand même une volonté farouche, une pugnacité colossale de Riquet.
Riquet, pour moi, je vous dis, c'est un homme hors du commun, c'est un géant, parce que s'il n'avait pas été persévérant, s'il n'avait pas été volontaire, s'il n'avait pas, alors j'allais dire, eu une santé solide, mais pas tant que ça, puisqu'il a été malade pratiquement toute sa vie. Il avait la fièvre carte, c'est-à-dire le paludisme, et il en a beaucoup souffert.
Il y en a eu beaucoup sur le chantier de paludisme à l'époque, ça a bien immobilisé le chantier.
Oui, absolument. Et il a fallu qu'il soit à l'aide, qu'il ait des qualités de chef d'entreprise, des qualités de rigueur aussi. Et en même temps, tout en étant jovial, bon vivant, enfin, on voit qu'il était apprécié. Même il ne s'est pas mis à dos les paysans. À une époque, oui, mais il est allé au-devant d'eux, il leur a expliqué, etc. Il les a dédommagés, ça s'est bien passé.
Il se les a peut-être mis à dos parce qu'il avait besoin d'énormément, on vient de le voir, d'énormément de personnel. On n'est pas en Chine où il y a des gens partout. Et je suppose qu'il leur a pris, vraisemblablement, les ouvriers agricoles.
Oui, alors ce qu'il y a, il leur prenait des ouvriers agricoles parce qu'en plus, les ouvriers agricoles, au moment des moissons, voulaient repartir sur les terres des paysans pour être payés, évidemment. Mais Riquet a dit, moi je vous paie et je vous paie grassement. Donc il a augmenté le tarif, mais simplement, au bout d'un certain temps, il s'est fait, entre guillemets, dénoncer par ses collègues, notamment de Scorbiac et d'autres, en disant c'est de la concurrence déloyale. Donc, et puis Colbert n'était pas d'accord pour que l'argent parte de cette manière. Donc, contrairement à ce qu'on dit, ça a duré un certain temps, cette augmentation des salaires, mais pas très longtemps, parce que Colbert a remis de l'ordre là aussi.
On était bien traité sur le chantier de Riquet quand même.
Tout à fait, oui, puisque tout de même, les ouvriers étaient payés par temps de pluie, quand ils étaient malades, le dimanche, donc c'est exceptionnel.
C'était la SNCF.
C'est la Sécurité sociale avant la lettre, c'est voilà. Ce qu'on dit souvent.
Alors, il fallait de l'argent, c'était le plus grand chantier du siècle, vraisemblablement.
Après Versailles.
Oui, il a démarré un peu avant Versailles, non ?
Il a démarré pratiquement un petit peu avant.
Un petit peu avant.
Oui, un petit peu avant.
Et il y avait beaucoup de guerres à financer aussi, parce que Louis XIV a été quand même un roi belliqueux.
Oui, oui, avec les Espagnols, avec la Hollande, et tout l'argent passait de cette manière, ce qui traumatisait Riquet, parce qu'il se disait, moi j'ai besoin d'argent, Colbert disait, je ne peux pas en donner, et pendant ce temps-là, il fallait que Riquet avance les travaux, donc c'était pas très, très drôle pour lui, et c'était injuste.
Il a été quand même adjudicataire du canal parce qu'on a exproprié, oui. Donc ça veut dire que c'était un seigneur puisque il avait un fief de 118 km, de 40 mètres de large, la profondeur peu importe, qui s'étendait de Toulouse à Trèbes à l'époque.
Oui,
c'était
oui,
quand
oui.
même un fief oui. assez particulier, il a été anobli
oui.
aussi.
Oui, alors il a été adjudicataire des deux parties du canal, quoi, jusqu'à 7, hein, la deuxième partie également. Mais il a été anobli, alors ça a été toute une histoire aussi, parce qu'il a voulu, il a prétendu, entre guillemets, hein, qu'il était noble de naissance, que sa famille était noble, mais que parce qu'il y avait eu des travaux de roturier, donc il avait perdu sa noblesse. Et là, c'est plus compliqué. On ne sait pas nous n'avons pas la preuve de sa véritable noblesse de naissance. Mais par contre, le roi était prêt à lui donner une noblesse de par les travaux. Mais Riquet, pendant toute sa vie pratiquement, il a bataillé pour retrouver une noblesse qu'il aurait eue, paraît-il. Encore faut-il le prouver. Hein. Beaucoup d'historiens et des très grands historiens qui sont très spécialisés dans cela pensent que c'est pas aussi évident. Mais il a obtenu sa noblesse et c'est très bien. Il le mérite.
Au château de Bonrepos, il y a des traces de cette noblesse visible dans l'architecture, non ?
Visible l'architecture elle-même, c'est-à-dire que le château, l'existence même du château est un signe ostentatoire fort, qui d'ailleurs était un signal donné à tout visiteur, tout invité qui pénétrait sur le château. Et Riquet. D'ailleurs, il faut bien comprendre que cette volonté de réhabilitation à noblesse est un petit peu le leitmotiv de sa vie. L'acquisition du château est une étape transitoire, puisqu'il vit à la noble, mais n'est pas un noble pour autant. Et le canal va lui permettre justement d'assouvir ce souhait, ce rêve d'être noble. Et quand donc on évoque le canal du Midi, il ne faut pas perdre de vue qu'on peut penser que ce canal du Midi est un moyen aussi, n'est pas une finalité, mais un moyen pour aboutir à cette ascension sociale. Donc il faut peut-être le percevoir aussi dans une approche un petit peu différente. Alors ça n'empêche pas l'opiniâtreté, l'habileté, l'intelligence exceptionnelle du personnage, mais peut-être que le but du canal n'est pas le canal en soi, mais véritablement cette ascension sociale et cette reconnaissance.
Enfin, il n'avait pas pris le moyen le plus facile, si c'est ça. Il est allé quand même aller chercher la difficulté.
Hein. Il est allé là où peut-être il pensait qu'il pouvait justement atteindre cet objectif. Parce que ce n'était pas si facile que ça d'être anobli à l'époque de Louis XIV.
Alors, bon, on a une idée. On sait que potentiellement, si ça marche, ça peut rapporter de l'argent. Ça peut permettre, vous venez de le dire, Frabet, ça peut permettre d'accéder à la noblesse. Mais, techniquement, où est-ce qu'il a appris ? Parce que c'est pas évident de faire un canal, il n'y avait pas d'eau, il fallait chercher l'eau, donc on sait que c'est quand même une difficulté majeure. Où est-ce qu'il a appris à faire ça ? Où est-ce qu'il a appris, par exemple, à faire des écluses ? Parce que les écluses, ça s'improvise pas. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus l'aider, mais il était autodidacte dans la matière.
Il a été aidé tout de même par un ingénieur qui s'appelle François André aussi.
Italien, toscan, hein, je crois. Hein.
Oui. Et qui était, il faut dire aussi, il avait des collaborateurs de haut niveau, dont François André aussi. Bon, il y avait les intendants qui étaient là aussi, il y avait les ingénieurs du roi qui étaient là et qui connaissaient tout le système. Et André aussi est allé en Italie, il connaissait les écluses. Et puis, je pense qu'il a bien observé.
Sont les Italiens qui ont inventé les écluses ?
Oui.
Et où précisément, vous le savez ?
Il y en a à Milan et du côté de Venise peut-être, mais je ne suis pas sûre.
J'ai pas vu beaucoup d'écluses à Venise, hein, mais
Il y a des écluses. Ce sont les Italiens. Bon, déjà.
Il y a le dessin de Léonard de Vinci.
Voilà, je cherchais le dessin de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a dessiné des écluses.
Il a tout dessiné, Léonard, tout, absolument tout.
Un génie, un autre génie. Voilà. Enfin, le plus grand des génies. Et donc, alors, il s'est inspiré, donc il a été aidé, faut pas non plus. Il avait été très bon collaborateur. De surcroît.
Ça, c'est aussi quand même une qualité que de savoir s'entourer par des gens brillants, souvent plus brillants que soi, de l'accepter. C'est pas donné à tout le monde. C'est un vrai meneur d'hommes et de grands projets.
Écoutez, je suis très admirative de Riquet par rapport à ça, parce qu'il avait ses idées très précises, et pourtant, quand l'idée de l'autre était meilleure, il savait la retenir. La preuve en est.
C'est la marque des grands.
La preuve en est, c'est que pour Saint-Féréol, Riquet avait prévu 18 magasins d'eau, 17-18 petits magasins d'eau, pour alimenter après la rigole de la montagne et de la plaine, et puis le canal. Et le chevalier de Clerville a pensé que c'était mieux de faire un seul grand, ça s'appelait comme ça, grand magasin d'eau, le bassin de Saint-Féréol. Et Riquet a été absolument convaincu de cela. Par contre, pour le Malpas,
Alors, quel fameux tunnel, on n'a pas dit ce que c'était le Malpas, mais c'est le tunnel qu'il avait créé pour tirer droit, si je puis dire.
Oui, voilà, pour passer sous la montagne dans ses runes. Et pour le Malpas, il avait tout le monde contre lui, mais quand il était déterminé, personne ne pouvait l'arrêter, y compris le ministre. Donc, Riquet savait prendre les bonnes idées, mais quand il savait que la sienne était la meilleure, il fonçait, voilà. Et puis alors, ce que je voulais dire aussi, tout de même, et là c'est plutôt Geoffroy qui peut donner des indications, c'est qu'il s'est inspiré tout de même des bassins de Bon Repos. Parce qu'il y avait, on disait, des petites écluses, enfin...
Ça veut dire qu'il a modélisé, il a fait un canal en modèle réduit à Bon Repos, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Pour revenir sur ce qu'indiquait Mireille il y a quelques instants, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Pierre-Paul Riquet, jusqu'en 1662 et jusqu'à ce qu'il écrive à Colbert, finalement, on a affaire à un autodidacte qui, au fond de son parc, un petit peu comme certains inventeurs ou innovateurs au fond de leur garage, vont bricoler d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il va faire à Bon Repos avec l'édification de grands bassins monumentaux étagés, il y en a trois, et qui, en collectant les eaux du vallon de la Garenne, va finalement... imiter ce qui sera fait à plus grande échelle dans la Montagne Noire ultérieurement. À travers ces différents travaux, Pierre-Paul Riquet va très vraisemblablement non pas s'approprier le projet, le projet du canal dans son ensemble, mais va très certainement faire ses premières armes, tout simplement, en tant qu'hydraulicien et surtout en tant que meneur d'hommes aussi, parce que c'est son premier chantier d'hydraulique. Et ça, il le fait dans son parc.
Et ça, on peut le voir chez vous.
Enfin, ça, on peut le voir.
Je dis chez vous, c'est presque chez vous, vous y consacrez.
Voilà, on peut le voir encore conservé, en partie conservé à Bon Repos Riquet. Donc, on est dans cette phase de projet. Et après 62, on est sur un projet qui va s'institutionnaliser d'une certaine manière avec l'intervention du roi et l'intervention de concours des commissaires du roi. Donc, on a un projet qui, certes, reste en main de Pierre-Paul Riquet. Donc, Riquet fait œuvre d'abord de chercheur, dans un premier temps, de porteur de projet, puis ensuite il va effectivement réussir à cristalliser à l'ensemble de collaborateurs et, comme vous le disiez précédemment, de gens peut-être beaucoup plus pointus que lui sur le plan technique, et c'est ce qui fait sa force. Donc il est à la fois porteur de projet, chercheur, mais aussi meneur d'hommes, entrepreneur et aussi gestionnaire, enfin, pas lui mais ses descendants, gestionnaire de cette infrastructure. Donc c'est ce qui fait tout le talent du personnage que l'on peut retrouver en partie à Bon Repos exprimé.
Je vous propose une deuxième pause musicale. C'est vous qui l'avez choisi, Geoffroy Besse.
Donc j'ai choisi Les Mirabelles d'MC Solar.
Allez.
Je suis un village, comme quelques autres en France. Ma naissance se situe vers la Renaissance. Moins d'une centaine, quel que soit le recensement, bien avant les pansements, je n'avais que des paysans. J'en ai vu lutiner, flâner ou glaner des pelletés de Mirabelle vers la fin de l'été. Je crois que l'unique chose qui a changé ma vie fut l'arrivée des taxis, ils sont pleins. Selon mes recoupements, il y a des gueules cassées pour les baisser, prothèses et pansements. Face à face, ils se font front dans les tranchées. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté. Les seuls qui voient sont les Mirabelles. Avant tout ce manège, ils se sont préparés pour la bataille. Dans l'artère principale, c'est la pagaille. Ils portent des uniformes bleus, rouges, voyants, avec montres agoussées et couvre-chef flamboyant. La grosse Bertha fait face au crapiot. Le flot de feu est continu, soutenu par les artiflots. Comme à Valmy nous répétait l'académie, une bataille des acclamations. Et c'est la calmie, les murs ont les oreilles. C'est la fête au village, le théâtre aux armées nous fait découvrir le jazz. Il y a des fanions, des litrons, du tapage. Et cette odeur maudite, le vent nous ramène les gaz. Y a de la joie, des pleurs, des fleurs, la peur tout à l'heure. On a fusillé un déserteur. Il avait ce poème dans sa vareuse. Adieu, meuse endormeuse. On ne me croit pas, ça semble réel. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté. Les seuls témoins sont les Mirabelles. Avant tout ce manège, neige, ma neige, ma neige. Les seuls témoins sont les Mirabelles. Maintenant que la guerre est passée et qu'il y a peu de soldats terrés dans les tranchées, les taxis de la marne s'en sont retournés. Qui aurait pu penser que je les regretterais? En l'an 14, il y était des milliers démobilisés, je ne les ai pas oubliés. Je repense au boulanger, je sens le pain humilié. Les blessés des Maccabées, mais là au moins je vivais. Et ça fait plus de 100 ans que je n'ai plus d'habitants. Quelques mots sur une plaque et puis des ossements. Je le dis franchement, c'est pas là dont j'attends le retour de la vie dans la paix ou le sang. Trop court était l'enlisement. Je n'ai plus aucun habitant. Les Mirabelles sont en déshérence. Je suis un village mort pour la France.
Voilà, nous retrouvons Pierre-Paul Riquet et surtout nos deux invités, Mireille Aublin-Brière, auteur de plusieurs ouvrages sur Riquet notamment, et Geoffroy Besse, pardon, j'écorne votre prénom, qui gère le château de Bonrepos, la demeure de Riquet. Alors vous l'avez compris, ce soir l'émission sera plus longue que d'habitude, ce sera la première fois, mais pour Riquet quand même, hein, on peut bien
ça
faire des exceptions et rallonger notablement notre émission.
Merci.
Alors on était dans la technique, on sait que Riquet avait... qui c'est qui a fait le tracé d'ailleurs du canal? Parce qu'il a fallu choisir.
Oui, alors il a fait un tracé, il a envoyé des plans à Colbert, mais les ingénieurs du roi ont revu quelquefois le tracé et il y a eu des grandes discussions entre les experts, parce qu'il y avait quand même une commission d'experts.
Déjà, il y avait des experts,
oui,
mon Dieu.
Les ingénieurs du roi et Riquet. Et preuve en est que... Bon, il y a eu le tracé dans la Montagne Noire, déjà la Rigole, ça c'est Riquet, hein, qui est vraiment l'auteur de tout cela. Il avait même nivelé, piqueté tout cela avant l'avis des experts. Il s'est débrouillé, il a pris de l'avance. Mais pour le reste, ça a été vraiment discuté. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, le tunnel du Malpas, c'est quelque chose qui n'avait pas été admis. Il aurait fallu détourner le tunnel du Malpas. Et Riquet a imposé son tunnel. Voilà.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Geoffroy Besse, des études qu'il avait faites dans le château. On peut les voir encore, ça existe, tous ces bassins, ce réseau?
Tout à fait, ces bassins sont en partie conservés, sont visibles. Lorsque la commune a acheté le château, il y a maintenant presque 10 ans, tout ça a été embroussaillé, inaccessible. Et grâce au travail de la collectivité, et surtout des bénévoles qui font un très très gros travail et que je tiens à saluer ce soir aussi, à l'antenne, on peut visiter le château et on peut surtout découvrir cet ensemble hydraulique qui, à première vue, ne paye pas forcément de mine puisque ce sont des grands bassins qu'en partie en eau, mais qui, replacés dans le contexte de l'époque du balbutiement, en tout cas de l'hydraulique moderne au XVIIe siècle et en main d'un personnage autodidacte qu'a été Pierre-Paul Riquet, il faut se rendre compte de l'importance qu'a pu être ces bassins, qu'on a d'ailleurs pu redécouvrir dans une correspondance que nous avons découvert au sein de notre comité de recherche, auquel Mireille et moi-même collaborons, entre autres, et qui confirme que ces bassins ont bien été, pour Pierre-Paul Riquet, source, en tout cas, d'acquisition en matière d'hydraulique et de conduite des eaux.
C'est vrai que quand on parcourt la Montagne Noire, et moi je l'ai fait, je vous l'avais dit, en préparant l'émission, je l'ai fait à cheval sur les traces de Riquet, là où il est passé, on voit toutes ces installations, ces rigoles, comme on disait, mais c'est pas un fossé creusé, c'est dallé, c'est structuré, il y a des petits ponts absolument magnifiques d'ailleurs, tout au long de la Montagne Noire.
Oui, et il y a même... au début, c'était même contesté, mais on a repris dans les archives le travail effectué. Des petits bateaux plats ont navigué sur ces rigoles, notamment la rigole de la Plaine, pour aller jusqu'au port, un petit port à Revel, il s'appelle je ne sais plus quoi, comment. Mais enfin, il existe encore ce petit port. Bon, il est vétuste, mais il a été la rigole de la plaine. A vu des barques plates qui transportaient des pierres, des céréales, etc. Et c'est vrai que c'était déjà une certaine entreprise. 76, quand on voit justement, vous me demandiez, mais Riquet, qu'est-ce qu'il a fait mais son travail, c'est 76 km de rigole, mais c'est 240 km de voie d'eau, comme je vous ai dit, avec 19 mètres de large, et puis 63 écluses, des simples, des doubles, des triples, des quadruples, même à Fonsoranne, il y avait 9 écluses à l'origine. Il a 320 ouvrages d'art, des aqueducs, l'aqueduc du Répudre, qui est le seul subsistant au monde d'ailleurs, et le tunnel du Malpas, enfin, mais c'est phénoménal.
Il a fait un pont-canal aussi.
Il a fait un pont-canal.
Ce qui n'est pas rien, parce que quand ici les Toulousains, ils voient le canal enfermé, on passe dessous
tout
à l'autoroute,
fait,
en disant on a fait un pont-canal. Riquet l'avait fait bien avant.
C'est énorme.
Geoffroy Besse.
Oui, pour revenir à votre évocation initiale, effectivement, ce qu'il faut imaginer, c'est le travail formidable qui a été fait par Pierre-Paul Riquet et aussi par ses associés, ses équipes, pour arriver dans la Montagne Noire à capter la moindre eau disponible, la moindre eau de surface, la moindre eau de résurgence, et donc d'avoir une vision très précise de la topographie du massif et d'arriver, en dépit des lignes de partage en fonction des différentes pentes, et par un jeu de rigole, arriver à capter toutes les eaux sur les différents versants et les amener sur le versant où se trouvait le futur réservoir principal, qui est le réservoir de Saint-Ferrol. Donc il y a véritablement un tour de force tout à fait exceptionnel et une maîtrise de la topographie remarquable, rien que pour évoquer la question de l'alimentation. Et encore, on est loin du linéaire, on est loin encore de l'édification du canal. Mais il faut imaginer, replacer dans le contexte de l'époque, avec les moyens notamment qu'on connaissait en matière de travaux de
nivelage,
qu'on faisait
à l'œil et de proche en proche avec
des appareils de visée. On n'avait pas le théodolite et encore moins les outils satellites actuels. Il faut imaginer le tour de force technique qu'a été ne serait-ce que la question de la collecte des eaux. Quand on fait un canal de navigation, ça n'a rien à voir à faire une voirie. Déjà, une voirie d'une autoroute de 250 km, on voit les difficultés aujourd'hui qu'on a à le terrasser, à l'aménager, indépendamment des enjeux politiques que vous évoquiez tout à l'heure, qui étaient d'arriver à convaincre les autorités de l'époque, l'expropriation, etc., sachant que les droits des gens qui étaient dépositaires de privilèges étaient tout aussi exorbitants, si ce n'est plus exorbitant qu'aujourd'hui. Donc, exproprier les seigneurs n'a pas été facile. Voilà. Mais la partie technique, effectivement, d'une voie d'eau, elle est excessivement complexe. Et on a du mal à imaginer cela.
Alors, on a du mal à l'imaginer, certes, mais on peut remonter encore plus loin dans le temps. Il y a une civilisation qui a maîtrisé à la fois les routes et la circulation, et puis les autres, ce sont les Romains.
Tout à fait.
Et ils n'avaient pas plus, peut-être un peu moins même, d'outils à l'époque. Ils sont arrivés à canaliser beaucoup de rivières et beaucoup de ruisseaux.
Alors, effectivement, les Romains, c'est la civilisation de l'eau par excellence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période où effectivement ces connaissances en hydraulique vont s'atténuer, vont un petit peu tomber dans l'oubli. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les travaux notamment de Vitruve vont être, donc qui est un Romain qui a travaillé notamment sur la conduite des eaux et notamment sur les aqueducs, va être largement reprise, réinterprétée et être réappropriée au XVIe ou au XVIIe siècle. Voilà. Et on est véritablement, à l'époque de Pierre-Paul Riquet, dans un contexte de réappropriation de la connaissance hydraulique qui va s'exprimer dans deux grands domaines, la canalisation des rivières et le canal du Midi, qui sont quasiment concomitants, et aussi parallèlement la construction des grands bassins canaux, dans les jardins à la française. Et finalement, la convergence de ces projets hydrauliques vont permettre une accélération des connaissances en hydraulique par l'expérimentation et la réalisation. Et on arrive comme ça au XVIIIe siècle avec la machine de Marly, des choses tout à fait modernes, alors qu'on était très très loin de tout ça encore au XVIIe siècle.
On a parlé des bassins, le bassin de Saint-Ferrol. Il y en a un deuxième, mais qui est beaucoup plus tardif, c'est le Lampi. Les Toulousains connaissent bien, parce que le week-end, le Toulousain va se promener sur la digue de Saint-Ferréol. Enfin, c'était la sortie de mes parents à l'époque, ça date un peu, mais encore, on en voit quand même pas mal.
Plus tardif, mais le bassin aussi.
Le Lampi, c'est en 1787.
Oui, voilà, c'est pas Riquet, mais ce que Riquet a fait, alors, c'est vrai que quand... moi, j'invite les jeunes là, à aller à Saint-Ferréol et voir avec les moyens de l'époque comment on a pu creuser ce mur, ce trou, ce 7 millions, plus de 7 millions d'eau, toute la terre qu'il a fallu enlever avec 900 personnes à l'époque.
Alors, comment ils l'ont fait ? C'est une question que je voulais poser.
Mais... Alors, des pelles, des pioches et des... ils avaient des
panières,
des brancards. Alors il y a les deux.
À la chinoise alors.
Voilà, si, des brancards. Hein, oui. Et même il y avait des femmes hein, qui transportaient.
Oui, mais ça c'est normal.
Merci. Bon,
c'était pour la provocation.
Oui, mais c'est vrai, on peut rien dire là-dessus.
C'était l'égalité avant la lettre.
Hommes-femmes,
hein, voilà.
Absolument. Et puis donc des panières. Et là, ils ont enlevé des tonnes de terre. Et par ailleurs, à Castelnaudary, c'est la même chose. Et donc creuser le tunnel du Malpas. Et puis ce qu'il y a, ce dont on n'a pas parlé, c'est que Colbert, même tout en harcelant Riquet, a vu que c'était quand même un spécialiste qui devenait pragmatique, mais spécialiste des voies navigables. Et donc il lui a demandé aussi de construire le port de Sète. Il y avait un début de construction. Alors... on se dit, mais c'est phénoménal, en l'espace de quelques mois seulement. Je me dis, mais comment est-ce possible ? Il a fait construire 1000 logements pour ses ouvriers, une église, une chapelle, deux forges, une boucherie et des écuries pour 200 chevaux. Et un logement pour lui aussi, heureusement d'ailleurs. Et pendant 6 mois de sa vie, les 2 dernières années, il passait 6 mois à 7 en faisant le trajet quand même Bon Repos ou Toulouse, ça dépendait parce qu'il avait d'autres propriétés à Toulouse, 7. C'est phénoménal. Et pendant ce temps-là, il répondait aux 500 lettres minimum de Colbert. Et pendant ce temps-là, il écrivait à toute sa famille. Et pendant ce temps-là, il suivait tout ce que faisaient ses enfants, ses garçons comme ses filles. Et je me suis aperçue justement que c'était un papa-poule, parce qu'il suivait à la trace la vie de ses fils et de ses filles. Et ça, c'est quand même pas commun. Y compris les filles, y compris quand une de ses filles a divorcé, ce qui était rarissime aussi, parce que son mari était impuissant, le marquis de Lavalette, un descendant de Lavalette, le fameux Lavalette. Et donc, comme sa fille Catherine a épousé un marquis impuissant, elle a sa famille, enfin Riquet,
À l'époque, on pouvait effectivement, c'était un motif.
On déposait plainte auprès de l'Église.
Auprès de l'Église, en cours de Rome, on cassait le mariage.
Oui, oui. Et dans mon livre, je rapporte tout ça, c'est très cru, hein, parce que l'Église contrôle tout. Et je peux vous dire que je n'oserais même pas dire à l'antenne
on lira votre livre alors pour avoir les détails les plus croustillants.
Oui.
Alors, ce canal va être réceptionné définitivement le 16 mars 1785. C'est un arrêt du Conseil d'État, je crois. C'est ça ?
Pardon ?
Le canal est réceptionné, c'est-à-dire que...
Oui, il est mis quelle date, vous dites ?
En 1685, c'est ça, la date ? Je crois, hein, je crois avoir
1600...
lu ça. 16 mars 1685, c'est la réception déjà... définitive et le Conseil d'État qui...
Oui, définitive,
Définitive.
Oui, parce qu'il y a une mise en eau en 1681 et une deuxième en 1683. C'est pour ça que j'écoutais attentivement. Oui. Mais voilà.
Alors, quand c'est mis en eau, bon, ça fonctionne, on s'aperçoit que ça fonctionne. Il y a ce fameux seuil de Norouze, la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exactement la ligne de partage des eaux d'ailleurs ?
Eh bien, c'est une hauteur au seuil de Norouze. Nous sommes à 100 et quelques mètres. Et là, les eaux arrivent à cette hauteur. Et donc, les eaux vont vers l'Atlantique. Il y a ce partage imposé aussi hein, de par le canal. Elles vont vers l'Atlantique et vers la Méditerranée. Voilà. C'est un seuil à partir duquel les eaux se partage entre l'Atlantique et la Méditerranée.
Donc, c'est mis en eau. De suite, il y a des bateaux de transport, des péniches. Qui fonctionnaient comment à l'époque ?
C'était des péniches de marchandises, hein,
oui.
Avec des céréales, à l'époque on disait du pinard. J'ouvre une parenthèse pour dire, vous disiez qu'à l'époque de Riquet, on mangeait bien, mais on buvait bien, parce qu'on buvait à peu près 4 litres à 5 litres de vin par jour.
Et par personne, on est un peu en retrait aujourd'hui quand même.
Parce que il fallait mieux boire du vin que de l'eau qui était complètement polluée.
Qui était polluée.
Et donc,
on ne faisait pas souffler les gens, ni sur le canal, ni à cheval.
Non. Alors, c'était des péniches de marchandises. Les premières ont eu lieu à l'époque de Riquet. Et puis, ensuite, même après...
Il y a eu des voyageurs aussi qui ont...
Oui, il y a eu des voyageurs qui ont pris des bateaux de voyageurs.
Et... Donc, vous savez quel temps on mettait pour relier, par exemple, Toulouse-Béziers, ou voire Sète?
Oui, on mettait 5 jours. Et il y avait la nuitée, il y avait la couchée et la dînée. On s'arrêtait pour dîner.
J'imagine, dans des auberges qui appartenaient à Riquet.
Oui, absolument. Hein. Il gérait tout et il encaissait tout. Hein.
C'est un peu comme, finalement, toute proportion gardée, le chemin de fer aux États-Unis. Hein, c'est ça. Ceux qui ont bâti les chemins de fer, ils ont créé des villes.
C'est un bon exemple, effectivement. On a une dimension pionnière et entrepreneuriale sur une ligne de chemin de fer.
On n'avait pas les Sioux, les Indiens, nous.
Voilà.
C'est un peu plus simple.
Sinon,
plus calme.
Ça, on peut prendre aussi comme exemple les concessions modernes. C'est-à-dire que Pierre-Paul Riquet est propriétaire du canal, mais on peut penser que Riquet, c'est un petit peu comme une entreprise Vinci, dépositaire d'une autoroute, avec des voyageurs captifs. Qui vont pouvoir...
Je ne sais pas pourquoi Riquet, ça me semble plus sympathique que Vinci. Allez savoir pourquoi. Hein.
J'aurais pu prendre un autre concessionnaire.
Hein. Je vous aurais dit la même chose.
Bon. Et tout ça pour dire qu'effectivement, Pierre-Paul Riquet va déployer une véritable commercialisation de son canal qui va amener à la création d'hostellerie, ce qui explique aussi la présence de glacières qui sont réparties.
Oui, j'allais vous parler de ces fameuses glacières. Il y a encore des glacières au-dessus de Carcassonne, hein, on peut voir encore des glacières.
Alors, ce sont des glacières, c'est pas forcément les mêmes.
Non, c'est pas les mêmes. Il y avait un monsieur qui avait inventé ces glacières, c'est Madame Pic d'ailleurs, je ne sais pas si elle nous entend, mais qui les fait visiter. Et je pense qu'on ira faire une émission prochainement dans ces glacières, parce que c'est passionnant.
Tout à fait, c'est un sujet passionnant, les glacières. Il faut distinguer deux types de glacières, pour être bref. Vous avez les glacières qui servent simplement à stocker la glace, qui sont celles que l'on connaît sur le canal ou au château de Bonrepos-Riquet. Et elles servaient aux hostelleries pour l'usage et le plaisir des passagers. Et puis, il y a celles où on fabriquait la glace, qui se trouve dans les massifs.
Oui, voilà. Dans le massif, où on stockait la glace en hiver. Et après, on l'a découpée, on l'a transportée. Elle partait d'ailleurs sur les péniches du canal pour remonter jusqu'à Bordeaux, c'est ça? On est une Bordelaise aujourd'hui en studio, donc il faut parler de Bordeaux. Alors, comment ça fonctionnait, ces péniches? Il n'y avait pas de moteur, c'était halage à cheval?
Alors, il y a eu le halage à cheval. Au début, à l'époque de Riquet, c'était le halage à cheval. Même dans certains cas, c'était, on disait, à col d'homme. C'est arrivé, mais bon, plus rarement tout de même.
Et oui, puis, parce qu'à col d'homme, ça veut dire qu'il fallait tirer...
On se mettait un collier.
Un collier autour du cou, oui. C'était quand même un peu rude, ça, non?
Et on tirait, oui, c'était très rude. Et puis, ensuite, évidemment, il y a eu... Riquet était mort à ce moment-là, elle péniche à moteur. Enfin, ça a pris de l'extension, ça s'est modernisé. Et on allait beaucoup plus rapidement... de Toulouse à l'étang de Thau. Mais au début, on s'arrêtait, il fallait descendre de la barque à chaque écluse. Et une autre barque attendait au pied de l'écluse.
Ah, on passait pas l'écluse en barque?
Non, au tout début, non. C'est ce qu'on a découvert dans les dossiers. On ne passait pas l'écluse en barque.
Il devait
C'était
y avoir
trop
quand même
dangereux.
Beaucoup de personnel qui travaillait sur ce canal.
Ben, il y avait les éclusiers à chaque écluse et il y avait du personnel et puis les bateliers aidaient à l'époque aussi. Hein, tout le monde s'entraidait.
Il devait y avoir une vie fantastique sur ce canal.
Fantastique et puis qui a perduré. Et c'est vrai que. Bon, moi, quand je suis arrivée au service de la navigation en 1990, enfin, les deux derniers pinardiers s'étaient arrêtés en 1989. Enfin, il y avait encore.
C'est la péniche
beaucoup...
Bacchus, je crois, hein,
oui,
qui a terminé.
Oui,
hein,
oui.
Voilà, la péniche
oui,
Bacchus.
Oui. Et il y avait encore beaucoup d'éclusiers, il y avait encore beaucoup d'agents très motivés. Et on était éclusiers de père en fils. Ou éclusière de mère en fille, et on était batelier également. Il y a des éclusiers qui étaient des anciens bateliers, etc. Quoi. C'était le monde de l'eau. Et c'est vrai que j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt, moi qui venais de ma Normandie natale, là, où c'était le monde, voilà, terre. C'était...
Ah ben vous avez de l'eau en Normandie, mais elle vient du ciel.
Oui, hein, là, voilà. Mais moi, j'étais dans le bocage normand et j'ai découvert les gens de l'eau et j'ai beaucoup aimé, beaucoup.
Alors, ça a été de suite une réussite. J'imagine que l'économie locale s'en est trouvée transformée, dynamisée, que les pouvoirs publics locaux ont enfin compris l'intérêt du canal.
Oui, mais hélas... Le chemin de fer est arrivé
et voilà.
En concurrence. Et c'est la même société qui a géré le chemin de fer et la voie d'eau. Évidemment, on a donné la priorité au chemin de fer et ça engloutit la voie d'eau. Alors maintenant, il y a la voie d'eau ressurgit tout de même depuis 1970 parce qu'il y a des loueurs de bateaux qui se sont courageusement installés sur le canal et qui, je pense, réussissent bien. Il y a des belles des pénichettes et on peut inviter les gens à faire une balade, un week-end, une semaine sur le canal du Midi.
Alors, avant d'en venir au XXIe siècle, donc ça fonctionne, c'est la famille qui va exploiter. Toutes les dettes en 1724 sont payées.
Oui.
Donc là, on commence à s'enrichir parce que il y a toute cette économie, il y a ce qui se passe sur le canal, mais il y a tous les à côté, tous les services qu'on offre. Donc la famille se refait et la famille gagne beaucoup d'argent. Il y a ces arbres aussi qu'on va implanter parce qu'au début, je ne pense pas qu'il y ait eu d'arbres.
Non,
les arbres sont
d'arbres.
Venus après qui pour apporter l'ombre, pour apporter la fraîcheur. Des arbres qui n'étaient pas du tout français d'ailleurs, qui viennent de Palestine, je crois, et de. Si, je pense qu'ils viennent de Palestine et de Virginie. On a planté les premiers platanes au 19e siècle. Alors on sait ce qui est arrivé, on y reviendra tout à l'heure. On finit de creuser le canal en 1856, je crois, à peu près. Vous pouvez peut-être nous le
préciser. Non, le canal.
Là, vous parlez
non,
du canal latéral.
Vous parlez du canal latéral.
Oui, oui, oui.
Vous parlez du canal latéral. On était parti sur un projet.
Je regardais avec un point d'interrogation.
On était parti sur un projet.
Voilà, c'est le canal latéral
pour
qui
relier...
va jusqu'à Bordeaux,
oui, ça,
pour... à Castet-en-Dorthe, exactement.
Oui.
Et là, effectivement...
Et là, véritablement, une fois que c'est fait, les deux mers sont reliées.
Oui, oui, les deux mers sont reliées. Alors, la différence, c'est le canal latéral qui a son charme, mais c'est un canal beaucoup plus rectiligne, tandis que le canal du Midi épouse le terrain. C'est sinueux, c'est ombragé. Et c'est vrai que Riquet n'avait pas planté d'arbres, il n'avait pas eu le temps, même si c'était... Par contre, dans une des lettres trouvées aux archives, j'ai vu qu'il souhaitait planter des iris. Ça, c'était Riquet. Mais le fils de Riquet, Jean Mathias, a eu des pépinières en bord de canal. Donc, il y a des arbres qui venaient également des pépinières... du point de vue local, hein, parce qu'on trouve dans les archives des pépinières plantées, gérées par le fils de Riquet, Jean Mathias, le fils aîné.
Donc la famille va exploiter, mais l'histoire avance, on arrive à la Révolution française, et là, donne va un peu changer.
Oui, elle est achetée, les actions sont achetées par... la famille est dépouillée, voilà, tout simplement.
Oui, comme beaucoup
à l'époque. Oui, et c'est l'État, c'est Napoléon, puis c'est l'État, la République, qui reprend le canal à son compte.
C'est Napoléon, je pense, qui a inventé ou mis en place l'administration des domaines nationaux,
oui,
c'est ça.
Oui,
donc,
ce
sont les domaines nationaux qui vont gérer, et ça va s'avérer une véritable catastrophe.
Voilà, voilà. Le privé gère mieux que le public à cette époque-là, j'en dirais. Je ne parle pas du présent. Hein.
Oui, parce que je vais vous poser la question tout à l'heure. Mais bon. Donc, l'exploitation commerciale va finir par s'arrêter avec, à cause, je pense, de la taille des péniches et de la rentabilité, c'est ça?
Oui, parce
c'est
que...
C'est la fameuse norme Fraissinet.
Fraissinet, voilà. Il fallait agrandir les écluses. Il y en a une partie de réalisée et la dernière partie ne s'est pas faite. Ça a un peu dénaturé aussi l'ouvrage d'origine. Enfin bref, ça a chuté. Les marchandises, les péniches de marchandises ont arrêté leur transport.
Oui, parce que c'était plus rentable du fait de la taille. Il fallait des bateaux toujours plus grands et les écluses. Alors, Fraissinet, c'est 38 mètres, je crois, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est cela. Oui.
Disons qu'il a fallu faire un choix entre économique, dépense, rentabilité, à savoir si on allait aménager le canal du Midi comme on aménageait d'autres voies d'eau. Et il s'avère qu'on a fait le choix de ne pas l'aménager compte tenu du faible rapport qu'on pouvait tirer.
Ce qui est peut-être finalement une bonne chose pour avoir... On a pu préserver en l'état les équipements inventés et créés par Riquet.
Tout à fait, ce qui d'ailleurs est un élément clé, un des éléments clés de la reconnaissance au patrimoine mondial du canal, c'est aussi son authenticité qui vient paradoxalement de son obsolescence, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la peine de le moderniser au XVIIIe siècle, comme d'autres canaux l'ont été, ou voies d'eau, et ce qui fait son authenticité et ce qui permet aussi à tout un chacun de découvrir, de se rendre compte des ouvrages qui ont été, certes en partie remaniés, mais qui pour beaucoup sont d'origine ou en tout cas du XVIIIe siècle. Voilà.
Alors, la famille Riquet, quand même, elle n'a pas été dépossédée. Elle a été dépossédée à la Révolution, mais elle est revenue après en possession du canal.
Oui, elle a repris. Oui, elle a remboursé.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, puisque en fait, ce qui s'est produit, c'est que au moment de la Révolution française, une partie de la famille a émigré, notamment en Angleterre, pour échapper évidemment à la situation de conflit qui régnait en France. Et compte tenu de la loi sur les immigrés, ils étaient dépossédés de leurs biens et les biens étaient nationalisés. Il s'avère que donc une partie du canal était nationalisée. Alors ce n'est pas le cas des propriétés qui étaient celles des Riquet de Bonrepos, parce qu'eux se cachaient certes, mais demeuraient en France. Et suite à la Révolution française, il y a eu, donc notamment sous la Restauration, des restitutions de propriétés vers les possédants initiaux. Quoi qu'il en soit, malgré une propriété qui était attachée à la famille Riquet, la gestion leur a échappé, quoi qu'il en soit, est devenue une gestion de l'État, puis concédée par l'État.
Oui, puis voilà. Après, ça s'est effiloché. Je crois que c'est à partir de 1904, si mes souvenirs sont exacts, que la famille Riquet ne possède plus rien. Plus aucun intérêt sur le canal.
En 1898, en fait, vous avez l'État qui va racheter l'ensemble du canal et donc va racheter l'ensemble des porteurs d'actions. Et là, d'ailleurs, au moment de la cession, on se rend compte que finalement, il y a un certain éparpillement de la propriété du canal, mais on se rend compte aussi que la famille, en tout cas élargie de Pierre-Paul Riquet, ses descendants, étaient quand même dépositaires d'une partie non négligeable du bien, tout en n'assurant plus du tout, évidemment, la gestion.
Alors le canal aujourd'hui, puisqu'il existe toujours, on le voit tous les jours, on s'est habitué. Je crois que c'est le préfet Mayos, notre préfet de région, qui parle du sourire hein, de l'Occitanie. Puisque effectivement, si on regarde bien le canal, ça représente un sourire. C'est géré aujourd'hui par les voies navigables de France, où vous avez sévi longtemps, si je puis dire, Madame Aubin-Prieur.
Une dizaine d'années.
Donc qu'est-ce que c'est que c'est une administration? Ça dépend des domaines.
C'est un établissement public. Enfin, quand j'y suis arrivée, moi, c'était à caractère industriel et commercial.
Un EPIC, alors, comme disait Julien.
Alors, ça s'est peut-être transformé depuis. Enfin,
aujourd'hui, c'est un établissement public administratif.
Voilà.
Puisque le statut a été modifié il y a quelques années, à ma connaissance.
C'est une administration nombreuse.
Nous étions 300 actuellement, je pense, le long du canal, enfin, entre l'administration.
Éclusiers compris, parce qu'il y a toujours des éclusiers. Oui. Est-ce que les écluses sont toujours mécaniques ou elles sont devenues un peu électriques?
Les deux, essentiellement électriques. Enfin, il y a les deux, hein. Il y a une alternance. Le service souhaite maintenir des écluses manuelles pour montrer un peu comment ça se passait, et puis avec quelques éclusiers. Et puis, il y a des écluses également automatisées. Bon. Il faut se moderniser aussi. Il faut vivre avec son époque.
On peut circuler toute l'année sur le canal? Ou il y a des périodes de fermeture?
Non, il y a des périodes de chômage, ce qu'on appelle les périodes de chômage, où les gens travaillent beaucoup, justement, parce qu'on enlève les portes d'écluses, on vérifie tout, on vide des sections de canal pour curer, nettoyer, etc. Mais donc, ça reprend. Alors, tout dépend des dates, hein, c'est le service qui décide. Mais en principe, entre le mois d'octobre et le mois de mars-avril, c'est fermé. Le canal est fermé. Ça reprend en avril-mai.
Et quand le canal fonctionne, donc on n'est plus en période de chômage, on peut passer les écluses à toute heure du jour ou de la nuit ou non?
Ah non, il y a des horaires déterminés, quelquefois d'une année sur l'autre. Non, en principe, on les passe à partir de 9h. Il y a une interruption.
Ça veut dire qu'il faut que l'éclusier soit présent lorsqu'on passe?
En principe, oui. Là où il y a l'éclusier, il doit être présent. Là où c'est automatique, il n'y a pas besoin d'éclusier.
D'accord. Et aujourd'hui, le canal du Midi, c'est surtout beaucoup de tourisme. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Mireille Blamrière, hein, avec des pénichettes. Mais il y a aussi beaucoup de touristes qui ont leur péniche. Alors, moi qui vis sur le port de Toulouse, je vois beaucoup d'Anglais, je vois beaucoup de Hollandais aussi, qui savent ce que c'est que des canots. Par contre, les Hollandais, ils connaissent bien, ils ont de superbes péniches. Il y a une vie d'ailleurs sur ce port. On va arriver, passer d'un bateau à l'autre, on s'invite, on prend l'apéritif. Tout ça est très, très festif. C'est une fréquentation nombreuse.
Alors écoutez, je ne voudrais pas balancer des chiffres que je n'ai plus autrefois. Quand j'étais dans le service, je les connaissais. Mais maintenant, je n'ai pas les chiffres exacts, donc ça me gêne un peu de donner des chiffres. Mais enfin, par exemple, je sais qu'aux écluses de Fonsoranne, il y avait 12 000 passages. À l'époque où je travaillais, il y avait 12 000 passages de bateaux en été.
Oui, qui est quand même assez
considérable. C'était l'embouteillage. Par contre, il y en avait moins. Il y en avait 1500, 2000 sur Toulouse. Vous voyez, ça ne vient pas trop sur Toulouse.
Il y a quelques pénichettes, mais il y a aussi des gens qui passent effectivement les bateaux. On voit des voiliers, je l'ai vu tout à l'heure, dématés avec le mât couché sur le bateau, mais qui passent d'une mer à l'autre. Donc finalement, l'œuvre de Riquet, ça les arrange bien, parce que s'il fallait faire le grand tour, il n'y a plus de barbaresque aujourd'hui pour les attaquer, mais ce serait peut-être un peu long.
Oui, et puis il y a quand même, je sais pas, quelque chose comme 400 bateaux qui sont en location. Ça fait vivre les loueurs de bateaux, ça fait vivre aussi les commerces du point de vue local, et ça fait connaître cet ouvrage merveilleux réalisé par un homme de génie, de talent.
On a compris l'affection que vous avez pour Pierre-Paul Riquet. Il y a quand même un problème, c'est la maladie des arbres. J'avais invité Laurent Adnet, que vous devez connaître, qui s'occupe, je crois, de ces problèmes d'arbres. Mais bon, il n'était pas là ce soir. Alors, on sait qu'ils ont une maladie.
Il y avait 40 000 platanes de plantés le long du canal du Midi. Ils ont la maladie du chancre doré. C'est un champignon. Oui, c'est ça. Le chancre
coloré.
Coloré, oui.
Il n'est pas doré, mais il est coloré.
Oui. Les deux, parce que quand j'y travaillais, on disait doré, mais c'est devenu coloré, effectivement. Et c'est une grave maladie. Ça a été apporté par, dans les caisses d'armement des Américains à la dernière guerre. C'est parti de Marseille et on n'y a pas trop fait attention, apparemment. Mais c'est en train, ça s'est étendu. C'est arrivé sur les platanes du canal du Midi. Et c'est grave parce qu'il faut abattre tous les arbres qui sont atteints.
Mais parce que là, ça ne se traite pas. C'est pareil, il faut le traitement radical. C'est la suppression de l'arbre, on le brûle et on en met notre à la place.
C'est des mises en quarantaine, des infections d'outillage pour éviter la propagation.
Il faut tout décontaminer.
Et puis comme on est sur un cours d'eau et que le chancre peut cheminer aussi par la voie d'eau, c'est un vecteur aggravant de la contamination.
Et ça peut aller très vite. Et les berges du canal, parce que c'est une fantastique balade, on peut aller à 7 à pied, en vélo, à cheval. Mais les VNF n'aiment pas trop qu'on circule sur les berges du canal. C'est même interdit d'ailleurs par endroit.
Oui, enfin, mais on se moque un peu
de l'interdiction.
Alors c'est vrai qu'il y a une piste cyclable depuis Toulouse jusqu'à Castelnaudary, quelque chose.
Oui, c'est parce qu'il y a de plus agréable, parce que quand vous avez le vent qui souffle dans le mauvais sens, vous avez l'impression de rouler sur l'autoroute. Que l'autoroute borde le canal et que vous avez tout le bruit de circulation qui vous arrive.
Oui. Les berges, on peut, il y en a beaucoup qui circulent en vélo sur les berges, mais il y a des endroits, c'est impossible.
Pour des raisons de sécurité.
Oui. Puis il y a même des racines des arbres qui sont
qui affleurent. Oui, ça, je peux vous le dire.
Et c'est très dangereux.
J'en ai fait l'expérience l'année dernière, je n'en ai pas vu une. Courant au bord du canal, comme beaucoup, c'est mal terminé. Il y a des projets de relance de ce canal commercial à votre connaissance ou pas?
Il y avait un projet sur le canal latéral. On l'appelle le canal de Garonne.
Parce qu'il borde, il est latéral
à la Garonne.
À la Garonne, voilà.
Mais je ne sais pas où ça en est. Là, il faudrait voir avec Voies Navigables de France, mes collègues de Voies Navigables de France, pour savoir où ça en est. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, où j'y travaillais, il y avait même un projet, à partir de Montèche, sur une péniche, de mettre des ordures ménagères, bien fermées, quoi, sur une péniche. Et puis, ça ne s'est pas fait.
Oui, parce qu'il y a des marchandises qui peuvent transiter. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être pressées, besoin de les véhiculer.
Si ce sont des pierres, du sable.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'au port de Sète, ouais. Si le port de Sète est un peu réhabilité, il en a besoin. Mmh. Mais là, il peut y avoir un sacré débouché.
Ouais.
Alors, je sais qu'il y a des gens qui pensent à ce genre de choses, et un peu dans notre... Dans cette maison, vénérable maison aussi, qui a peut-être vu passer Riquet d'ailleurs, il y a un think tank qui s'appelle Bolégadis et je sais qu'il y a des idées là-dessus de remise en service dans certaines conditions du canal du Midi, mais bon, on verra ça plus tard. Mais il peut y avoir encore des retombées économiques, ce qui permettrait peut-être d'avoir des droits de passage, parce que ça marchera on va reparler de Vinci, mais c'est un peu le même principe.
C'est le côté compliqué, parce qu'on y a déjà pensé. Moi, je me souviens que quand je travaillais dans le service, on avait déjà quelques projets, et certains disaient, ah oui, mais qui sera prioritaire? Ce ne sont pas les touristes, ce sont les péniches. Ce sont toujours, jusqu'à maintenant, c'était les péniches de transport de marchandises qui étaient prioritaires par rapport aux touristes. Alors, quand on voit déjà l'attente qu'il y a parfois à Fonsranne pour les touristes, il faut organiser tout cela parce que les touristes, ils ne vont pas être satisfaits d'attendre des heures.
Peut-être qu'on peut alterner. Les touristes peuvent voyager de jour et les péniches de transport la nuit.
Pourquoi pas? Ah, mais je vois que vous avez des idées.
Non, mais je fais partie du think tank Bolégadis, pour ça aussi.
Non, que c'est nous très
avons
bien.
Quand même pas mal réfléchi.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ça, c'est l'avenir. Nous verrons. Alors, le château de Bonrepos, aujourd'hui, oui. Il appartient à qui? À la commune, c'est ce que vous avez dit.
Oui, le château de Pierre-Paul Riquet est une propriété publique depuis maintenant presque 10 ans. Donc, la commune, une petite commune de 280 habitants qui se bat pour
Bonrepos.
Pardon ?
C'est le village de Bonrepos.
Le village de Bonrepos.
Ils sont courageux quand même. C'était un sacré défi pour un village.
Oui, c'est un défi. C'est de l'audace, c'est de la persévérance, c'est aussi de l'envie et aussi une nécessité. Hein. On est en présence d'un patrimoine assez remarquable. Et je pense que la commune a pris, et ses élus ont pris à bras le corps cet enjeu-là pour essayer de transmettre ce lieu, son histoire. De contribuer aussi, et c'est ce que nous faisons dans le cadre de notre comité de recherche, à la fois travailler sur le château, mais aussi sur des questions liées au canal et à la genèse du canal du Midi.
Alors vous avez parlé d'un comité de recherche, on peut peut-être donner le nom
Qui s'appelle le groupe de recherche de Pierre-Paul Riquet au canal du Midi, voilà, qui
regroupe... Vous faites partie tous les deux.
Voilà.
On est une douzaine hyper motivés. Il y a beaucoup de bénévoles dans ce château. Dans ce domaine, c'est ce qui est intéressant pour les lagages, pour des gens manuels, des gens qui essaient de monter des dossiers, des plaquettes, etc. Et nous, on fait partie, ça s'appelait comité scientifique avant d'ailleurs, et il y a eu une brochure qui a été réalisée par ce comité, là voilà. Il y a une autre brochure qui sortira au mois de juillet. On invite les gens à l'acheter d'ailleurs. Et puis, on travaille pour l'avenir du château. Et parmi ces personnes, donc il y a Geoffroy, j'en fais partie aussi, mais il y a des hydrauliciens, il y a des professeurs émérites aussi. Il y a notre chef, entre guillemets, qui était à la DRAC, Claire Fournier. Et enfin, je pourrais...
Qui nous a permis, on la remercie, Claire Fournier, qui vous a permis d'être là, parce que c'est à elle adressée. C'est
d'accord.
Elle qui m'a donné vos noms. Donc, merci à Claire Fournier de nous avoir permis de réaliser cette émission.
Et alors, l'appel qu'on peut lancer, c'est que, premièrement, d'inviter les gens qui souhaitent faire des sorties, découvrir un domaine qui doit être réhabilité. Hein. Il y a des choses à faire, bien sûr, beaucoup même, mais à venir au château de Riquet pour les fêtes qui ont lieu à quelle période, je ne sais pas, au mois de juin, enfin,
donc
elles sont
là,
fixées ou pas?
En juin, il n'y aura pas de fête cette année, mais si vous aimez la musique, si vous aimez U2, c'est un tribute qui se produira, mais on utilise aussi le château comme espace scénique, donc c'est assez, assez intéressant. Ensuite, ce sont les journées du patrimoine et surtout les journées des plantes au mois de novembre, qui sont un grand marché, entre 60 et 80 exposants, que des artisans et des producteurs. Qui envahissent le château, son orangerie, et qui permettent de le faire revivre un petit peu à la belle époque.
J'imagine aussi qu'on peut apporter son obol, il le faut, parce que effectivement, bon, la commune n'est pas très riche, et j'imagine que c'est un poids considérable pour elle. Alors comment on peut aider le château? Il y a des...
Il y a trois façons. La première, comme l'indiquait Mireille, c'est de venir d'abord découvrir, de s'imprégner du lieu. Et,
alors les heures d'ouverture peut-être.
Donc nous sommes ouverts tous les dimanches du mois de mai et jours fériés pour des visites à 15h. En juin, c'est le samedi et le dimanche. Et juillet, août, on est ouvert du mardi au dimanche aux mêmes horaires. Voilà, donc c'est-à-dire les après-midi à 15h.
Qu'on se le dise, et donc allez visiter le château de Bonrepos et voilà. Puis intéressez-vous à Riquet et voyez aussi comment financièrement, finalement, on peut apporter son obol. Il doit y avoir des possibilités de dons.
Tout à fait, hein, tout
la
à fait.
Fondation donc, du patrimoine, peut-être.
Exactement, nous sommes partenaires depuis maintenant près d'une dizaine d'années, depuis quasiment l'acquisition de la Fondation du patrimoine, qui nous permet de pouvoir lever des fonds. Et d'autre part, de permettre aux donateurs de bénéficier du régime de défiscalisation qui existe en France. Et troisième possibilité, c'est de nous rejoindre en tant que bénévoles. Nous sommes évidemment ouverts à toutes les bonnes volontés. Et effectivement, c'est ce qui fait vivre aujourd'hui le château, c'est les bonnes volontés.
Et c'est l'unique demeure qui reste de Riquet, parce que Riquet en avait plusieurs, dont celle de la place Saint-Lingros, où il y a une plaque qui dit que Riquet a vécu là. Il y avait le domaine de Frascati, qui faisait 4 hectares sur Toulouse. Tout ça a disparu. Donc, c'est l'unique demeure de Riquet. Et Riquet, c'est non seulement quelqu'un du sud-ouest, mais il a créé un canal européen. Il ne faut pas l'oublier, parce que dans les mémoires de Louis XIV, il parle d'un canal européen. Donc, c'est un grand homme.
Eh bien, tout arrive au terme de cette émission, la plus longue que j'ai faite avec APCAP d'ailleurs, donc, mais consacrée à Riquet, il le fallait. Alors, on rappelle quelques livres quand même. Nous avons là le livre de Mireille Aublin-Brière, Merci, elle me la passe, aux éditions Priva, Le génie des eaux, Riquet, un portrait intime de Riquet, donc par une spécialiste, vous avez eu le temps d'apprécier l'étendue de ses connaissances. Nous avons également, merci Geoffroy Besse qui me passe, Patrimoine Midi-Pyrénées, Bonrepos, Château et Jardin de Riquet, qui doit être édité par la région, j'imagine, hein, avec beaucoup, beaucoup de représentations, de plans, donc un très bel ouvrage que vous pouvez vous procurer, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies. Allez à Ombre Blanche et chez leurs collègues, tout ça doit s'y trouver. Merci à tous les deux, merci Mireille Aublin-Brière, merci Geoffroy Besse d'être venu nous parler aussi bien, aussi savamment de Riquet. Merci à Williams Griffiths qui était aujourd'hui à la technique. C'est Cap Cap, une émission de Jacques Laverne. Lundi prochain, nous nous retrouverons à la même heure, mais nous parlerons de tout à fait autre chose, quoique, d'économie sociale et solidaire, de coopératives, de l'Italie aussi, surtout de Venise d'ailleurs, avec un maître de conférence à l'université Jean Jaurès, Jacques Prade. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Et puis n'oubliez pas, rediffusion de l'émission demain, je pense, mardi à 11h, ainsi que le week-end prochain, qu'on se le dise. Bonnes semaines à toutes et à tous. Et moi, je vous retrouverai, pour ma part, mercredi prochain pour l'émission Ciao Italia. Buonasera a tutti.